Nous avons commencé l'étude de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Et nous avons dit qu'il est toujours important de connaître le contexte d'un texte pour pouvoir l'interpréter correctement. Trop souvent, on prend des passages dans cet épître sans savoir quel est le contexte général. Nous avons rappelé que Paul avait fondé l'église de Corinthe lors de son deuxième voyage missionnaire. Et en fait, Paul avait un grand souci des églises qu'il laissait derrière lui. Et c'est le vrai pasteur doit vraiment avoir à cœur le devenir de ses brebis. Et je peux faire une parenthèse ici. Nous ne sommes pas légalistes à Calvary. C'est pas. Mais lorsque nous voyons que ça fait quelques semaines que vous ne venez pas, ne vous étonnez pas si on prend des nouvelles de vous. C'est pas pour faire la police. Mais c'est parce que le Seigneur nous a donné la responsabilité de vous suivre. De vous aider à le connaître, à l'aimer, à le servir. Et donc ne le prenez pas mal. Peut-être des fois on a même tendance à dire, oh, je ne vais pas appeler cette semaine, sans doute ils ont fait ci, mais. Et je remercie ceux qui nous disent la semaine prochaine ou je ne serai pas là. Ou... On referme la parenthèse. Et Paul avait donc à cœur de savoir que devenaient ces églises. Et le problème à l'église de Corinthe, c'est qu'il avait entendu dire qu'il y avait des graves problèmes. Et il leur écrit cette lettre non pas pour les complimenter, mais pour les corriger, pour les reprendre. Et nous avons dit qu'en fait, ce qu'ils avaient perdu de vue, c'était la centralité de Jésus-Christ dans leur vie de chrétien. Et il en découlait tout un nombre de problèmes. Nous allons voir au fur et à mesure que nous avançons dans l'étude de la lettre qu'ils avaient d'abord des problèmes de division parce qu'ils avaient perdu de vue la seigneurie de Christ. Ils avaient des problèmes d'immoralité parce qu'ils avaient perdu de vue que leur corps était membre du Christ. Ils se poursuivaient en justice parce qu'ils avaient oublié de reconnaître que Jésus est le juge. Et ils se disputaient à tour de bras parce qu'ils avaient oublié qu'ils étaient membres du corps de Christ. Membres les uns des autres. Et ce que Paul veut faire, c'est de les ramener à la conscience de leur communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est frappant, encore une fois, c'est de remarquer que l'actualité de ces problèmes dans l'Église contemporaine. Et Et nous allons voir aujourd'hui le problème des divisions. Dans le premier chapitre, les versets 10 à 25. Je lis dans la Bible à la Colombe, à partir du verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit « Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » Christ est-il divisé ? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous ? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ? Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le contestataire de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Nous arrêterons ici. Un passage plein de richesses, qui fait un contraste entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Et pour l'interpréter, on peut utiliser le verset 13 pour s'en servir comme d'un guide, d'un plan de ce passage. C'est un auteur, Warren Wiersbe, qui le fait. Je trouve que c'est une bonne façon d'aborder ce passage. En effet, il y a trois questions dans ce passage. Trois questions, ce qu'on appelle des questions rhétoriques. C'est-à-dire que ce sont des questions que l'on pose sans espérer une réponse de la personne qui lit ou qui écoute. Parce que la réponse est tellement évidente qu'on n'a pas besoin de la faire. Et il commence par cette question, Christ est-il divisé ? Et ça reprend les versets 10 à 13, à 10 et 12. Il les exhorte, il leur dit au verset 10. Ça veut dire qu'il leur demande avec force. Il les encourage. Il vient en disant, je vous exhorte, frère. C'est pour créer ce climat de confiance, d'amour qui doit exister entre chrétiens. Et le mot qu'il utilise pour dire exhorter, qui est traduit ici par exhorter,
to,
exhort, C'est le même mot que, qui est traduit dans Jean par le consolateur. C'est
comforter.
L'idée, c'est de quelqu'un qui vient à votre côté pour vous aider. C'est ainsi qu'on appelait un avocat qui venait aider quelqu'un dans un procès. Et qui leur donne le meilleur conseil qui soit. Qui leur donne la bonne chose à faire. C'est donc ce qu'il fait. Il les appelle, c'est la meilleure chose à faire, ne soyez pas divisés. Il en appelle au Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, le centre de notre vie chrétienne. Lorsqu'il y a des divisions dans l'Église, c'est parce que Jésus-Christ n'est plus sur le trône. Il les invite à tenir tous le même langage, être en plein accord dans la même pensée, dans la même opinion. Alors on peut se dire qu'en fait, les chrétiens doivent être uniformes. Il n'en est bien sûr pas du tout question. On le verra tout au long de l'épître de Paul. Il s'agit de l'unité, par exemple, d'un orchestre. Où chaque instrument peut jouer sa propre partition pour donner à l'ensemble une riche harmonie. C'était un problème d'ailleurs, ce problème de division que l'on retrouve dans les églises des premiers siècles. Aux Philippiens, il disait: ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Les inviter à ne rien faire par rivalité ou par vaine gloire. Mais dans l'humilité d'estimer les autres supérieurs à eux-mêmes. Aux Éphésiens, il disait: efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix.
The spirit, by the bond of peace.
Il leur dit d'être en plein accord. Là aussi, c'est un mot intéressant dans le langage grec. Ça veut dire de mettre en ordre, de réparer. C'était le mot qu'on utilisait pour réparer les filets des pêcheurs.
Fishing nets.
Ou même de, pour le mot, lorsque l'on remettait un os en place, quand il est cassé au sorti de son articulation, il fallait le remettre en place, il fallait le remettre en plein accord. Donc ça veut dire que la division, elle n'est pas naturelle dans le corps de Christ. Elle doit être absolument corrigée pour la santé du corps. Et si tout le monde, que ce soit dans l'église locale ou entre églises, de mettre Christ en premier, d'être prêt à souffrir des pertes personnelles pour le bien de Christ, alors Christ est glorifié. La pensée de Christ, c'est de ne pas se considérer comme la chose la plus importante du monde. Vous vous souvenez, dans Philippiens, il est dit qu'il n'a pas considéré comme une chose à arracher d'être égal avec Dieu. Parce qu'il s'est fait homme, il s'est humilié jusqu'à la croix.
Man,
Il leur dit, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes, des disputes parmi vous. On ne sait pas exactement qui était Chloé. On pense que c'était une femme chrétienne qui avait des employés, des esclaves. Et des serviteurs qui étaient devenus chrétiens aussi. Et apparemment, ils avaient fait part à Paul des problèmes de l'Église. Et ça aussi, c'est important dans une Église. Lorsqu'il y a des problèmes, et Dieu sait s'il peut y en avoir, de les traiter ouvertement, d'en faire part aux responsables, ouvertement, pas en signant anonymement des lettres en disant un frère qui te veut du bien. Et là aussi, l'église locale, c'est pas l'église du pasteur ou de quelques responsables, c'est l'église de tous les frères et sœurs. Et sentez-vous libre et encouragé à faire part de vos idées, de vos suggestions, de vos critiques constructives. Le mot utilisé pour discorde, c'était le nom de la déesse grecque de la dispute, de la zizanie. Il n'y avait pas eu encore de dispute, de séparation, mais le terrain était tout à fait prêt. On peut remarquer que Paul ne blâme pas Satan pour les problèmes de querelle. Trop souvent, on a tendance à dire « Satan m'a fait faire ça ». Plus loin, il va leur rappeler que c'est leur immaturité spirituelle, leur carnalité, c'est-à-dire l'influence trop grande qu'ils laissent à leur vieille nature pécheresse. Si vous voulez regarder avec moi au chapitre 3, juste un peu plus loin, versets 1 à 3, il leur dit, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, c'est-à-dire guidés par le Saint-Esprit, que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, donc dominés par la vieille nature, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Et la preuve, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Pour se disputer, il n'y a pas besoin de Christ. Nous savons faire cela très bien dans notre nature d'homme. Il suffit d'ouvrir le journal pour voir les conflits, que ce soit les guerres, les conflits sociaux. Ça fait partie de notre nature de péché. Et donc il y avait ces divisions, au point qu'ils avaient formé ce qu'on appelle des clans, ou des cliques, ou des coteries. Et ils se réclamaient l'un de Paul, l'autre d'Apollos, l'autre de Céphas, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, et puis d'autres de Christ. Ceux qui se réclamaient de Paul, c'était sans doute des Grecs, à qui Paul avait présenté l'évangile pour la première fois,
The gospel. The gospel.
To them for the first time.
Et il le préférait à tout autre prédicateur. C'est un peu comme les oies qui préfèrent le premier être vivant qu'ils voient comme parent. Il y avait les expériences de ce... Voilà, je savais que Olivier s'en rappellerait. Sur l'idée que cet homme pouvait nager, les canards le suivaient, ou les oies le suivaient, parce que c'était la première personne qui avait été vue. De la même façon, certaines fois, la première personne qui vous présente l'évangile, c'est votre père spirituel. Il n'y a rien de mal à ça, dans la mesure où on est prêt à recevoir d'autres et on ne le met pas au-dessus des autres. Ils aimaient bien chez Paul son courage, sa ténacité. C'est vrai qu'apparemment, il nous l'a dit lui-même, il n'avait pas beaucoup de prestance physique. Il devait être assez petit. Il avait un problème avec ses yeux. On pense que peut-être il avait du pu, quelque chose qui dégoulinait, il n'était pas ragoûtant. Et puis quand il parlait, c'était pas spectaculaire. Ça fait rien, c'était lui, c'était Paul. Puis il y en a d'autres, c'était Apollos. Alors son nom, c'est vrai, ça rappelle Apollon. Il est dit dans Actes 18, on l'a rencontré dans le livre des Actes, qu'il était d'Alexandrie. C'était un homme éloquent. Il savait bien parler aux foules. Et il était versé dans les Écritures. Il connaissait son Ancien Testament sur le bout des doigts. Et là aussi, il y en a qui disaient se dire, ah, quand c'est lui qui parle, alors le Testament, l'Ancien Testament, il ne disait pas l'Ancien Testament, il disait les Écritures prennent vie, c'est merveilleux. Il est dit dans Actes qu'il savait réfuter avec vigueur les Juifs en public et il démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Il savait mener un argument. Et il avait un club de fans. Puis d'autres, c'était Pierre, l'apôtre Pierre, Céphas en grec. Lui, c'était l'apôtre des Juifs. Puis en plus, il avait été vraiment un apôtre de Jésus. Il avait vécu avec Jésus pendant 3 ans. Et donc on avait ces gens qui se disputaient les mérites de leurs prédicateurs favoris. Et puis il y avait le quatrième groupe qui disait « Moi je suis de Christ ». Il disait plutôt avec le ton « Oh, moi je suis de Christ ». Parce que ils voulaient montrer qu'ils étaient arrivés à un stade plus avancé de leur maturité spirituelle. Ils prenaient fierté, ils étaient orgueilleux. Ils pouvaient eux aussi citer des passages entiers de la Bible. Ils avaient une réponse à toutes les questions. On les rencontre encore aujourd'hui parmi nous. C'est ceux qui vous donnent l'impression qu'ils ont une ligne rouge entre eux et Dieu, un téléphone rouge. Vous les voyez prendre des décisions stupides. Poliment, vous leur faites remarquer que peut-être il y avait une autre alternative. Mais ils mettent fin à la discussion en disant que c'est Dieu qui me l'a dit. Fin de discussion. On ne peut pas argumenter avec Dieu ou le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et c'est vrai qu'on n'aime pas trop parler aux gens de ce qui se passe dans, à ces gens-là, de ce qui se passe dans notre vie. On sait qu'on va s'en prendre plein la figure et qu'on va ressortir de la discussion complètement démoralisé. Quatre groupes. Et là aussi, c'est un problème qu'on trouve encore aujourd'hui. On voit des chrétiens qui disent « Moi, je suis pentecôtiste. » Oh, « Moi, je suis baptiste. »
«
Moi, je suis charismatique. » Il y en a même qui disent « Moi, je suis Calvary Chapel. » On est les meilleurs. On sait exposer la parole. Notre louange, c'est la meilleure. Et c'est naturel de préférer tel ou tel style. Je crois que Dieu a permis qu'il y ait différentes églises, différents styles. Mais encore une fois, il est fondamental que nous reconnaissions que c'est Christ, notre Seigneur. Quelqu'un a dit qu'il est toujours important de garder la chose principale, la chose principale. The main thing, the main thing. Trop souvent, on part avec la chose principale. Et puis c'est les issues secondaires, les problèmes secondaires qui vont nous diviser. Il y a la place pour avoir des opinions différentes quant aux sujets qui ne sont pas des sujets fondamentaux de la parole de Dieu. Mais nous devons pouvoir avoir une vraie communion fraternelle entre membres d'églises différentes, de dénominations différentes. Et donc, la question de Paul, c'est « Christ est-il divisé ?» Bien sûr que non. On ne voit pas Christ avec un corps qui aurait des membres coupés. Est-ce que le corps peut rester le corps s'il donne une jambe à droite, un pied à gauche, un bras à d'autres? Une autre remarque, c'est que lorsque l'on reçoit que d'un seul homme, quand nous recevons d'un seul homme, on va avoir une vision de Christ. Et même l'apôtre Paul n'avait pas une vision complète de Christ. Combien avons-nous d'évangiles? Nous avons un seul message. Nous avons quatre évangiles, celui de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Parce que la richesse de la vie de Christ est trop grande pour une seule personne. Donc soyons de Christ sans snobisme, d'accord? La deuxième question que Paul leur pose dans ce verset 13, c'est, on va prendre en fait la troisième pour le suivre lors du texte, c'est « Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ?» En qui doit-on baptiser? Au nom de qui doit-on baptiser? Matthieu 28 nous dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc Donc lorsqu'il dit « Avez-vous été baptisé au nom de Paul ?» c'est un sacrilège même que d'y penser. Donc la réponse là aussi, c'est « Non, bien sûr ». Et là aussi, il y avait probablement des gens qui étaient fiers d'avoir été baptisés par Paul, d'autres par Apollos. Aujourd'hui encore, il y en a qui, même s'ils ont déjà été baptisés, ils aiment bien se faire baptiser dans le Jourdain, en Israël. Ou se faire baptiser par une personnalité religieuse. Être baptisé par Billy Graham dans les eaux du Jourdain, ça c'est un baptême super. En fait, vous savez que l'eau du Boréon est tout aussi bonne, n'est-ce pas, Mathias ou Tonio? L'eau de la Méditerranée est aussi valable. Il ne s'agit que d'un symbole de la noyade de notre vieille nature. Et nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Ce qui compte, ce n'est pas le symbole. C'est la réalité intérieure de ce. Il ne minimise pas l'importance de ce rite du baptême. Jésus nous en a donné l'exemple. Nous sommes commandés de le faire. Mais Paul lui-même dit que ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Christ, verset 17, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile. Il y a un verset dans Marc 16:16 qui dit que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et certains pensent que ce verset est preuve que si on n'est pas baptisé, on ne peut pas être sauvé. Paul nous disait dans Romains que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et le reste des Écritures nous montre que le baptême n'est pas indispensable au salut. Pourquoi est-ce que Marc a associé la croyance et le baptême? Parce que dans l'Église des premiers siècles, dès que quelqu'un était né de nouveau, acceptait le Seigneur, on le baptisait tout de suite. Un peu comme aujourd'hui, on parle de mettre la bague au doigt à quelqu'un. Pour parler du mariage. Parce que ça se fait presque simultanément. De la même façon, le baptême, ça voulait dire qu'on était devenu croyant et qu'on avait reçu le salut. Et si le baptême était indispensable, Paul ne dirait jamais « Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile ». Donc, inutile de se prévaloir de tel ou tel baptême. Du moment que dans notre cœur nous sommes morts à la vie ancienne et que nous sommes nés à la vie nouvelle en Christ. Ça aussi, ce baptême, c'est un sujet de division dans l'Église aujourd'hui. Il y a des dénominations entières qui se sont créées sur ce problème. D'où le nom de baptiste, par exemple. Et de la même façon, Calvary-Chapelle, on aime bien baptiser dans la mer ou dans une rivière, dans un lac. On peut aussi bien se faire baptiser dans une baignoire. C'est moins romantique, mais si le symbole est réel, correspond à la réalité, c'est tout aussi valable. Et puis le point central, c'est on va voir les versets 18 à 25, ça répond à la question de Paul, est-ce que c'est Paul qui a été crucifié pour vous ? Et donc, Paul veut dire par cette question que ce n'est pas lui qui est le sauveur. Il y a dans les églises toujours le danger du culte de la personnalité. On a tendance des fois à mettre un leader, un pasteur, un orateur chrétien sur un piédestal. Très dangereux, parce que rien n'empêche un responsable de tomber dans le péché. Et si on l'a regardé comme une idole, alors c'est toute notre foi qui va être remise en question. Chuck Smith, le fondateur de Calvary, est bien conscient de ce problème. Et il parle souvent que lui, il est à rien du tout. Et que c'est pas lui qui a accompli des choses, mais c'est le Seigneur à travers lui. Et Paul veut nous dire qu'aucun homme ne peut nous sauver de nos péchés. La croix. Nous en avons parlé la semaine dernière en disant que ce qui était merveilleux, c'est qu'elle était vide. Mais souvent, à force d'en parler et de la voir sur le toit des églises, le clocher des églises, ou de la voir en pendentif, on oublie que c'était un instrument de torture. L'instrument de mort. C'est un peu comme si aujourd'hui vous portiez une petite guillotine en or. Ou bien une chaise électrique en argent. Oh, qu'elle est belle! Je vais en prendre deux pour boucles d'oreilles. On a dit mercredi dernier que les juifs avaient perdu le droit de mettre à mort les personnes qui violaient la loi religieuse peu de temps avant que les Romains n'occupent la Palestine. Et s'ils avaient pu mettre à mort Jésus, ils l'auraient mis à mort en lui lançant des pierres. Il l'aurait lapidé. Et aujourd'hui, on porterait des petits galets dorés. Non, la croix, c'était le pire supplice. Réservé au pire des criminels. Les Romains ne pouvaient pas subir ce supplice, même s'ils commettaient les meurtres les plus horribles. Et le verset 18 est profond. La parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, la parole de la croix? C'est le message de la croix. C'est l'évangile. Paul disait, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, c'est-à-dire de tous les hommes. pour ceux qui périssent, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas, ils la rejettent comme étant stupide, fou. Mais pour nous qui sommes sauvés, être en train d'être sauvés, il est même dit dans le texte en grec, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu manifestée par la résurrection de Jésus. La croix, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont la foi, et c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui n'ont pas. C'est un peu comme les rayons X. Si vous êtes en bonne santé, vous avez été guéri. Alors les rayons X vous donnent la bonne nouvelle. Vous n'avez pas de méfiance, vous n'êtes pas, vous voulez pas, ça ne vous gêne pas qu'on vous prenne une radio. Mais si vous êtes dans la maladie, alors vous savez que les rayons X vont révéler cette maladie. Et la croix, elle révèle la maladie qui nous colle à la peau. Le péché qui fait partie de notre nature dès que nous naissons. Même ce petit Nicolas. Ou même la petite Johanna qu'on n'a pas encore vue pour la plupart. Aussi innocent soit-il, si on donne le meilleur environnement, ils manifesteront leur nature de pécheur. Paul cite un verset d'Ésaïe 29. Je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Oh, I was reading that, verse 19.
Paul says,
you can just read the verse. Il avait utilisé ce verset dans un contexte bien précis. C'est lorsque le royaume du Nord, Israël, lorsqu'ils étaient menacés par la Syrie, ils avaient décidé de s'allier avec l'Égypte au lieu de se tourner vers Dieu. Et ils avaient été détruits par la Syrie. Et Dieu disait, vos plans, votre sagesse, je la réduis à néant. Il continue en disant, où est le sage, où est le scribe, où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Le sage, on peut dire que c'était l'intellectuel non croyant, non sauvé. Le païen. Le scribe, c'était l'intellectuel juif. Et le contestataire, c'était ceux qui avaient fait mai 68. Non, c'était les philosophes qui aimaient bien discuter et se débattre. Encore une fois, on a dit que Corinthe était une grande ville grecque qui était remplie de philosophes. On aimait bien débattre de tout et de rien. Ça me rappelle des fois les débats que l'on a à la télévision en France. Il y a peut-être d'autres endroits, mais faire une émission avec des gens qui ne savent rien, mais qui échangent des idées ignorantes, c'est typiquement le débat, la contestation pour rien. Et Dieu a frappé de folie la sagesse du monde. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, j'aimais bien lire, ma mère avait gardé des livres de science de son enfance. Et en fait, tout ce qui était dans ces livres, ça avait été réformé, ça avait été mis à jour, abandonné, remplacé. Et aujourd'hui, je vois les livres de mes enfants, les livres de classe, de science. Il y a maintenant des choses qui ont remplacé des choses qu'on nous apprenait. Chuck Smith dit par exemple, lui, quand il allait à l'école, on apprenait que la Terre avait 2 milliards d'années. Et que maintenant, on lui dit qu'elle a 12 milliards d'années. Elle dit, je suis pas aussi âgée que ça. La Bible, par contre, elle ne change pas. Il y a peut-être des nouvelles versions. Mais le texte, on s'est toujours basé sur le texte original grec et hébreu ou les copies que nous en avons. La théorie de l'évolution, c'est la sagesse de l'homme. Et pourtant, de plus en plus, elle est battue en brèche. C'est en fait un parti pris. Si on écoute les évolutionnistes dire par exemple comment est-ce que l'œil est apparu, ils vont vous expliquer que c'est un amphibien qui a sorti la tête sans yeux de l'eau un beau jour. Et puis que le soleil, les rayons cosmiques ont causé une mutation de sa peau. Le petit amphibien a pris un petit coup de soleil qui a créé une espèce de tache de rousseur. Et puis de mutation en mutation. Et puis finalement, nous avons l'œil. Ça, c'est, en résumé, pas très élaboré. Lorsqu'ils présentent la même chose, ils mettent d'autres termes. Mais la folie de la théorie de l'évolution, c'est de dire que l'œil vient d'une tache de rousseur. C'est aussi ridicule que de dire qu'une caméra de vidéo Sony vient d'un accident cosmique. Sans plan, sans ingénieur derrière. J'ai trouvé sur la plage. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, verset 21, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Toutes les recherches des hommes, toute la philosophie, tous les mathématiques, l'astronomie, l'astrophysique, les expéditions interstellaires ne trouvent pas Dieu. Vous vous souvenez des Russes qui disaient on est allé dans l'espace, on n'a pas vu Dieu. Le problème avec l'homme, c'est qu'il est fini, il est limité. L'homme ne peut pas trouver Dieu tout seul qui est illimité, infini. C'est la grande différence du christianisme avec toutes les autres religions humaines. Les autres religions, c'est l'homme qui essaye de trouver Dieu en montant sur l'échelle. L'échelle de, du style de vie, de la, du sacrifice. Le christianisme, c'est Dieu qui vient se révéler. C'est l'incarnation, Jésus qui vient se mettre dans une peau d'homme, qui meurt pour les hommes. Il dit, verset 22, les Juifs demandent des miracles, les Grecs, eux, cherchent la sagesse. Les Juifs croyaient en Dieu, mais ils voulaient, pour reconnaître Christ, ils voulaient des miracles. Jésus avait dit d'eux, vous êtes une génération mauvaise qui recherche un signe. Il ne sera donné que le signe de Jonas, qui a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. Et ça, c'était le signe de la résurrection. C'était le plus grand miracle de Jésus. Mais là aussi, ils ont eu les yeux fermés. Les Grecs, eux, ils cherchaient la sagesse. Les hommes ont des connaissances. Mais ce qui compte, c'est la sagesse. C'est-à-dire l'utilisation de ces connaissances. Les Grecs avaient fait de la sagesse une divinité. C'était Sophia, comme dans Sophia Antipolis. Et leur discipline préférée, c'était la philosophie. L'amour de la sagesse. Mais malgré toutes les connaissances qu'ils pouvaient avoir, malgré toutes les connaissances scientifiques, historiques que nous pouvons avoir, où est la sagesse des hommes ? Comment se fait-il que les problèmes de pollution, les problèmes d'inégalité, d'argent, tout ça n'ont pas été résolus? La philosophie peut être un exercice intéressant en soi, mais si on suit un tel, elle va aboutir à tel point, si on en suit un autre, elle va aboutir à un autre point. Quelqu'un a critiqué la philosophie avec des paroles assez sévères. En disant que c'est comme un aveugle qui cherche dans une salle obscure un chat noir qui ne s'y trouve pas. Je demande pardon à nos étudiants en philosophie. Mais c'est vrai qu'à côté de la sagesse de Dieu, cette sagesse des hommes, elle ne mène à rien. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. C'était un scandale pour les Juifs. Scandale, c'était un obstacle. À l'origine, c'était un obstacle qui nous fait tomber. Christ crucifié, pour eux, c'était pas possible. Ils attendaient un Messie qui triomphe. Bien qu'Ésaïe avait clairement parlé d'un Messie souffrant, eux, ce qu'ils retenaient, c'était le Messie qui prenait la victoire. Et pour eux, la croix, ça veut le dire, non, c'est pas Dieu. Et pour les païens, c'était une folie. C'est vrai que si on a fait... On se targue de raisonner. Si on est fier de pouvoir raisonner, on se dit, mais comment est-ce qu'un homme mort sur la croix il y a 2000 ans pourrait me sauver de mes péchés? C'est une folie, une offense. Parce qu'elle met à mal la sagesse humaine. Ceux qui peuvent le mieux recevoir cette vérité, ce sont les enfants qui n'ont pas tous nos a priori. Elle met à mal notre orgueil. Parce qu'elle est donnée à ceux qui ne méritent rien. Même les plus pauvres, même les plus mauvais peuvent recevoir gratuitement ce cadeau. Du salut qu'amène la foi. Elle ne fait pas de différence. C'est une offense à notre volonté parce qu'il faut nous soumettre. Nous humilier en disant oui, je suis vraiment un bon à rien. Je suis pécheur. Ce qui motive ma vie, c'est mon égoïsme. Mais verset 24, pour ceux qui sont appelés, aussi bien les Juifs que les Grecs, alors elle est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. La croix divise le monde entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. Mais entre croyants, elle ne doit jamais diviser. Elle est le symbole même de la puissance de Dieu, de sa sagesse. C'est un auteur, C.S. Lewis, qui disait qu'en fait, le christianisme, ce n'est pas quelque chose que l'homme aurait pu inventer. C'est tellement bizarre comme histoire que Dieu s'humilie pour venir mourir à notre place. Mais il ajoutait, le fait qu'elle soit aussi surprenante, c'est un gage d'authenticité. Quand on regarde les autres religions, les mythologies, c'est toujours la même chose. Souvent des dieux qui ont les mêmes péchés que les hommes, qui se disputent entre eux. Non, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Verset 25. On peut se demander, mais est-ce que par là, Paul veut dire que Dieu peut faire des folies? Ou que Dieu a des faiblesses? Non, bien sûr, c'est une façon de parler. Là encore, il veut humilier notre orgueil humain, Paul. Il dit, imaginons un moment que Dieu puisse faire des folies. La pire de ces folies sera encore plus sage que la plus sage des sagesses humaines. Et de la même façon, si tant est que Dieu pouvait avoir des moments ou des aspects de faiblesse, la pire de ses faiblesses sera encore supérieure à la toute-puissance de l'homme. Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Oui. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et donc Paul veut nous rappeler que nous devons être appelés à l'unité en raison de notre union à Christ. Il est mort pour nous. Nous sommes baptisés en son nom. Et nous sommes appelés à nous identifier à sa croix. Le message de la croix, c'est aussi de prendre soi-même sa croix et de mourir à soi-même. Et ça doit être la base merveilleuse de notre unité en Christ. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta sagesse, pour ta toute-puissance. Merci que malgré notre faiblesse, malgré notre folie, tu as tout fait pour que nous soyons sauvés. Merci pour ta croix, Seigneur. Merci pour ce plan bizarre et pourtant si merveilleux. Tu es mort, Jésus, à notre place. Tu as pris nos péchés pour nous donner ta justice. Seigneur, nous voulons nous rappeler ce sacrifice en célébrant la Sainte Cène maintenant. Seigneur, nous voulons nous rappeler ce que tu as fait. Et pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur dans leur cœur, je vous demanderai de ne pas participer à cette communion. Il est pourtant temps de recevoir le Seigneur dans votre cœur. Si c'est votre désir, vous pouvez le faire dès maintenant. Vous pouvez reconnaître que vous êtes un pécheur. Vous avez besoin de l'aide de Dieu, que vous lui ouvrez la porte de votre cœur. Vous pouvez, si vous le désirez, prier après moi cette prière. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, que je mérite ta punition divine, Seigneur. Mais je reconnais que dans ta grâce, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir pour mes péchés, pour que je sois pardonné, si je le reçois dans mon cœur. Et aujourd'hui, Seigneur, je veux lui ouvrir la porte de mon cœur, lui demander d'y venir régner, pour me détourner de mes péchés, et avec l'aide de ton Esprit Saint, de vivre comme tu le veux. Merci Seigneur que dès que mon cœur te fait cette prière, tu réponds. Et que je suis sauvé.